Les contes ne sont pas faits.
Les contes
pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Rennes. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où la sieste pointe, je m'en vais vous conter toutes les histoires, fables et légendes que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. Aujourd'hui, nous attaquons la troisième et dernière émission de la série « Les bons contes font les bons amis » consacrée à l'argent. La semaine dernière, nous nous sommes attaqués aux yeux d'Alexandre le Grand. Nous avons fait le procès d'une pierre ou encore nous nous sommes demandé combien coûte l'odeur d'une galette saucisse. Eh bien, cette semaine, pour la dernière émission, nous allons parler dette, nous allons parler d'un monde sans argent et nous allons même parler babouche. Alors ouvrez grand vos oreilles, car une histoire va commencer. Il était un paysan, dans le sud de la France, qui n'avait pas grand-chose à part son cousin, qui était usurier, un cahorsin. À l'époque, des usuriers cahorsins, ils ne faisaient rien d'autre que prêter de l'argent. Et il y en avait pas mal à l'époque. Ça n'était pas rare. L'usurier, lui, il avait ouvert son petit crédit dans la grande rue, un crédit appelé « Me, Myself and I ». Pour cela jouer plus nature et découverte, il avait installé de la verdure dans son bureau. Côté banquier, des plantes grasses, et côté client, une misère. Mais le banquier était apprécié des habitants, car il organisait, il sponsorisait même pour ainsi dire, des fêtes, des grandes réceptions, où les riches et les pauvres étaient mélangés. Et ça, tout le monde, ça leur plaisait bien, parce qu'ils disaient, aux fêtes du banquier, aux fêtes de l'usurier, ben, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, on est tous égaux. J'ajouterais simplement que quand les riches et les pauvres sont mélangés, c'est seulement pour quelques heures, et ça se passe chez les pauvres. Et donc, le paysan, accablé sous les dettes, n'avait eu d'autre choix que de se tourner vers son cousin le banquier, son cousin l'usurier, pour qu'il lui prête quelques sous. L'usurier lui avait fait un taux vraiment pas sympa, un truc genre 60%, ce qui est vraiment moche quand c'est pour quelqu'un de la famille. Même quand c'est pas quelqu'un de la famille, d'ailleurs. Mais les gens ne disaient rien, ils disaient « C'est vrai qu'il prête à des taux exorbitants, mais c'est son opinion. Toutes les opinions sont respectables. » Moi, je ne pense pas que c'est respectable de penser toutes les opinions respectables. Mais les gens se taisaient et le silence a ce côté candide, candide comme l'eau. L'eau qui coule inexorablement vers le bas, vers le fond. Et donc, le paysan n'avait eu d'autre choix que d'accepter de contracter cette dette. Et il croulait sous le poids de la dette comme un pays pauvre. Et il trimait tous les jours et ça n'y faisait rien. Il ne réussissait qu'à s'endetter plus et il ne pourrait jamais rembourser son cousin, l'usurier cahorsin. Mais un jour, lui vint une idée. Ce n'était pas l'idée du siècle, mais le paysan n'était pas l'homme le plus brillant non plus. Il a décidé de fabriquer lui-même des faux billets de 1 000 flouzes pour rembourser la dette de 20 000 flouzes qu'il devait à son cousin. La copie n'était pas parfaite, ne s'improvise pas faux monnayeur qui veut, mais si l'on n'était pas trop regardant, la copie pouvait passer, et de plus, le papier convenait au toucher. Et le paysan, une fois ses 20 000 faux flouzes imprimés, il donna rendez-vous à son cousin dans un bar de Saint-Julien pour lui rembourser capital et intérêt tout ce qu'il lui devait. L'usurier, comme à son habitude, arriva à l'heure et attendit dans ce bar que son cousin paysan arrive. Le paysan arriva en retard et fin sous, ce qui n'était pas rare à l'époque. Enfin, sous, on l'aurait juré. Une fois assis à la table et les quelques mondanités échangées, le paysan proposa que l'on en vienne au fait et qu'il lui rembourse, en liquide si ça ne le dérange pas, les 20 000 flouzes qu'il lui devait. « Par contre, dit-il, mon cousin, est-ce que ça te dérange si je te rembourse en billets de 500 flouzes ?»« Ça ne te dérange pas, non ?»« Eh bien, pas du tout, répondit l'usurier qui avait l'œil penché sur le portefeuille rempli du paysan, sur le portefeuille rempli de billets de 1 000 flouzes. » Et le paysan commença à sortir ses billets de 1 000 flouzes et à compter comme si c'était des billets de 500. 500, 1000, 1500, 2000. Et l'usurier, bien trop content de pouvoir empocher deux fois la somme promise, se tint quoi. Et ce n'est qu'une fois un tas de 40 billets de 1000 flous alignés sur la table que les deux hommes se serrèrent la main pour sceller l'accord. Le paysan, lubie d'ivrogne, insista pour que l'on stipule sur le contrat que la dette avait été remboursée en billets de 500 flous. Qu'à cela ne tienne, répondit l'usurier, bien trop content d'empocher sa mise. Quelque temps plus tard, quand l'usurier se rendit compte qu'il avait été berné à son tour, il essaya de porter l'affaire devant le tribunal, ce qui n'était pas rare à l'époque. Mais il ne put rien y faire, comme le contrat stipulait que la dette avait été remboursée en billets de 500 et que tout ce qu'il put présenter était des faux billets de 1000 flous. Et l'usurier perdit le procès, ce qui est rare, tout de même. Le seigneur de ce village aimait bien une chose en particulier. Il aimait bien se promener les mercredis, jour de marché, parmi la foule, parmi tous ses sujets, pour voir ce que l'on pouvait penser de lui et pour voir ce qui se passait dans son royaume. Alors il se déguisait de quelques fripes et s'en allait glaner des informations à travers la foule anonyme des badauds. Mais ce jour-là, un tohu-bohu attira son attention. Deux marchands se crêpaient le chignon et étaient prêts à en venir aux mains. Et l'un insultait l'autre, et une foule de badauds s'était massée autour d'eux pour voir ce qui se passait. Le seigneur les sépare d'un bras sûr et leur pose la question « Mais brave, mais pourquoi vous battez-vous ? Que s'est-il passé ?» Et les deux hommes avaient beau crier, s'insulter et essayer de se justifier, impossible de savoir d'où venait le problème. Ils avaient l'air plus énervés qu'autre chose, et la querelle avait l'air d'être très personnelle. Alors le roi, dans sa bonté et son amour du jeu, leur proposa quelque chose. « Messieurs, je suis un homme riche, et je possède tout ce qu'un homme peut posséder. Alors voici ce que je vous propose. Je peux vous offrir ce que vous voulez. Le premier qui parlera recevra l'objet de son désir, mais qu'il fasse attention, car tout ce qu'il aura, le deuxième l'aura en double. Vous avez une minute de réflexion, messieurs, pensez-y bien. » Et les deux hommes s'emmurèrent dans un silence, et se mirent à réfléchir à ce qu'ils pouvaient demander. Et l'un se disait « Je pourrais demander un bon commerce, tout simplement. Ah mais non, parce que si je demande ça, l'autre aura un commerce plus grand et qui marchera mieux que le mien. Non. Je pourrais demander une femme, une belle femme à mes côtés. Ah non, car mon voisin aurait deux femmes, et deux fois plus belles que la mienne. Ça ne va pas. Ou je pourrais demander un bœuf pour m'aider à labourer les champs. Non, car mon voisin aurait deux bœufs. Et lui labourerait deux fois plus, pourrait vendre deux fois plus de produits, deux fois plus de légumes. Non, ça ne va pas. Et les deux réfléchissent. Et la minute fatidique s'approche. Et les deux n'ont pas dit un seul mot. Les deux réfléchissent jusqu'à ce que l'un lève la tête, regarde le Seigneur droit dans les yeux et lui dise « Arrache-moi un œil. »
I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Can't buy me love, everybody tells me so. Can't buy me love,
can't buy me love.
Can't buy me love, no. I'll give you all I've got to give if you say you love me too.
Massaoud est un cordonnier étrange. Il habite dans une petite maison à flanc de colline, et quand quelqu'un lui amène une chaussure à réparer, il y plante un clou, monte au sommet de la colline, regarde le ciel, redescend, plante un deuxième clou dans la chaussure, monte au sommet de la colline, redescend, plante un troisième clou dans la chaussure, monte au sommet de la colline, regarde le ciel, redescend, et comme ça jusqu'au coucher du soleil. Les anciens du village disent que Massaoud n'a pas toujours été comme ça. Il fut même une époque où il était normal, comme vous et moi. Il se levait le matin, se rendait jusqu'à son travail, faisait sa prière en haut de la colline, un homme très croyant, Massaoud. Et il retournait pour travailler le reste de la journée dans son atelier, sans plus en sortir. Massaoud n'était pas marié, et à la fin de sa prière, il demandait souvent à Dieu de lui amener une femme qu'il l'aime et qu'il aurait pu aimer, une femme pour lui tenir compagnie. Mais un jour, on ne sait pas si ce fut Dieu ou pas qui répondit à ses prières, mais un aigle arriva de l'horizon, attrapa Massaoud par les épaules, s'envola avec lui et l'emmena loin. Ils voyagèrent tous les deux. Ils traversèrent un désert, puis une mer, puis encore un désert, puis encore une mer, et l'aigle lâcha Massaoud devant une ville. Cette ville, il ne l'avait jamais vue. Elle était belle, avec ses grands murs blancs et un fort parfum musqué qui s'échappait de la place du marché. Massaoud commença à déambuler dans cette ville quand il vit deux personnes se rencontrer et se saluèrent en disant « Salat Hasein ».« Salat Hasein ».« Salat Hasein », ça veut dire à peu près « c'est merveilleux » ou quelque chose comme ça. Massaoud se dit « c'est sûrement la manière qu'ils ont de se saluer ». Il continua à se promener dans la ville. Il aperçut une jeune femme devant l'étal d'une boucherie. Elle commanda de la viande, puis dit « Salat Hasein, Salat Hasein, Salat Hasein, Salat Hasein, Salat Hasein » 5 fois. Puis elle prit la viande et s'en alla. Cette ville paraissait décidément bien mystérieuse à Massaoud. Il s'arrêta ensuite devant l'échoppe d'un cordonnier, comme lui. Il vit un homme rentrer. Il saisit une paire de chaussures neuves et dit « Salat Hasein, Salat Hasein, Salat Hasein, Salat Hasein » 20 fois. Et une fois qu'il eut dit ses 20 « Salat Hasein », il prit les chaussures neuves et s'en alla. Massaoud était timide, mais il osa. Il entra dans les shops, salua le cordonnier et lui dit « Je suis nouveau dans cette ville, je ne connais pas tout, mais décidément, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent. »« Enfin, qu'est-ce qui t'étonne ?» répondit l'autre. « Eh bien, voilà, les gens partent sans payer. »« Comment ça tu as vu des gens, dit le cordonnier, qui partaient sans payer ?»« Ben oui, par exemple, l'homme aux chaussures, il a pris les chaussures et il est parti sans payer. »« Lui ?» répondit le cordonnier. « Ah mais lui, il a payé. Les chaussures coûtaient 20 Salat Hasein. » Il les a dit et il est parti. « Mais, et l'argent ?»« L'argent ? Ah, ici, il n'y a pas d'argent. Ça ne... Ici, il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. Tout se paye en Salat Hasein. » « Tu veux dire, répondit Massaoud, que si je vais dans la boulangerie à côté et que je dis 20 Salat Hasein, on donne du pain ? Oh là, malheureux ! Pour 20 Salat Hasein, non ! Tu en dis 2 et puis tu pourras avoir une miche de pain. Si tu vas chez le primeur, tu dis 1 Salat Hasein, tu auras une pomme ou une orange. Et c'est aussi simple que ça. » « Mais encore une question, dit Massaoud. Est-ce que je peux rester dans cette ville ? Bien sûr que tu peux rester, dit le cordonnier. Tout le monde peut rester. » « D'accord, et une dernière question, insista Massaoud. Moi, je suis cordonnier et toi aussi. Est-ce que tu penses qu'il y aurait de la place pour nous deux dans cette ville ? Oh là ! Mais bien sûr, si tu savais. J'ai tellement de travail qu'on ne serait pas trop deux dans cette échoppe pour en venir à bout. Installe-toi ici, Massaoud, et sois heureux, mais sache une chose, simplement. Dans cette ville, chacun prend ce dont il a besoin. Si tu as besoin de 2 pommes, tu prends 2 pommes. Pas 3, car il faudra en laisser au suivant, et pas 1, car tu n'en aurais pas assez pour toi-même. Si tu veux une miche de pain, tu prends 1 miche de pain. Pas 2, pas la moitié. Si tu respectes ces règles simples, tu es bien entendu le bienvenu dans notre ville et tu seras heureux. » Et Massaoud s'installa dans cette drôle de ville. Il y loua une petite maison et y vécut heureux. Il se levait le matin, allait travailler à l'échoppe du cordonnier jusqu'à midi, puis il se rendait au marché pour acheter à déjeuner. Mais au bout d'un an à vivre dans cette ville, il arriva un jour à l'échoppe de son patron avec les yeux rougis et l'air mal à l'aise. « Que se passe-t-il ? » demanda le cordonnier. « Tu as le mal du pays, c'est ça ? Tu veux retourner chez toi ?»« Ah non, pas du tout, » dit Massaoud. « Au contraire, si tu savais, au contraire, je me plais tellement ici que j'ai envie de me marier. Mais je ne connais pas les coutumes par ici. Comment est-ce qu'on fait pour se marier ?»« Oh, c'est très simple, » répondit le cordonnier. Toutes les filles qui veulent se marier se rendent tous les jeudis après-midi sur la plage. Elles s'y promènent et portent sur la tête une cruche remplie d'eau. Il suffit que tu t'y rendes jeudi. Tu en choisis une qui te plaît et tu vas discuter avec elle. Voir si elle te convient. Et voir si tu lui conviens. Au bout d'un moment, tu lui demanderas à boire. Si elle te donne à boire, c'est qu'elle accepte de t'épouser. Alors Massaoud, impatient quoique étonné, courut le jeudi après-midi jusqu'à la plage. Et effectivement, la plage était remplie de jeunes filles, toutes plus belles les unes que les autres. Il ne savait vers laquelle se tourner quand il aperçut un regard. Un regard d'un vert profond. Un regard qui ne le lâcherait plus. Il se rendit vers la jeune fille, commença à discuter. Il était timide, mais il osa. Il finit par lui demander à boire. Dans un sourire, la femme lui tendit sa cruche d'eau. Et c'est ainsi que Massaoud trouva femme dans ce pays lointain. Ils emménagèrent dans une maison un peu plus grande. Ils étaient deux maintenant. Et vécurent heureux, ensemble, dans un ménage doux et calme. Et Massaoud ne changea pas vraiment ses habitudes. Il se levait tôt le matin, allait travailler dans l'échoppe du cordonnier jusqu'à midi, puis il se rendait au marché pour acheter à manger. Mais un jour, au marché, il aperçut un poisson, mes aïeux, un poisson gigantesque. Il se dit « Avec ce poisson, on pourra, moi et ma femme, cuisiner pendant des semaines et des semaines. Ce poisson est gigantesque !» Alors il s'approcha du vendeur. « Combien pour ce poisson ?» lui demanda-t-il. « Ce poisson, mon brave, il coûte 50 zlatarzen. » Alors Massaoud commença à les énumérer. Zlatarzen. Et une fois qu'il eut fini de prononcer les 50 zlatarzen, le poissonnier lui dit « Ce poisson est à toi, prends-le. » Il eut du mal à ramener le poisson jusque chez lui tellement il était lourd. Il eut même dû le porter sur sa tête. Et tellement impatient qu'avant même d'habiter chez lui, juste quand il avait passé la porte de son jardin, il appela sa femme. Elle ouvrit la porte et le sourire s'effaça immédiatement de son visage. « Malheureux Massaoud, mais qu'est-ce que tu as fait ? On ne fait pas ça dans cette ville. Ce poisson gigantesque, il aurait pu nourrir 10 familles pendant une semaine et nous ne sommes que deux. Nous n'allons jamais pouvoir le cuisiner, nous allons le perdre dans notre maison. Tu n'as pas le droit de faire ça dans cette ville, Massaoud. Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Et quand la femme eut terminé son discours, l'aigle était revenu. Il attrapa Massaoud par les épaules et il s'envola avec lui. Et ils voyagèrent loin tous les deux. Ils traversèrent une mer, puis un désert, puis encore une mer, puis encore un désert. Et l'aigle redéposa Massaoud en haut de sa colline. Et c'est pour ça que, depuis ce jour-là, tous les jours, Massaoud plante un clou dans un soulier, monte en haut de la colline, regarde le ciel, redescend, plante un clou dans un soulier, monte en haut de la colline, regarde le ciel, redescend. Mais l'aigle n'est jamais revenu. Deux vieillards, amis de longue date, sont assis sur un banc. L'un est un ivrogne, la pipe au bec et la moustache jaunie par des années de tabagisme intensif. L'autre est instituteur, propre sur lui, la chemise repassée boutonnée jusqu'en haut. Et l'instituteur, quand son côté moralisateur reprend le dessus, s'adresse à son ami en ces termes. « Enfin, n'en as-tu pas marre de fumer cette chose horrible ? Tu dois passer une fortune là-dedans. » « Eh bien, d'ailleurs, calculons combien t'as dû en dépenser. Nous avons le même âge, toi et moi, à peu près, n'est-ce pas ? Oui. Alors, vu ce que tu fumes, vu ce que ça coûte... Je retiens deux... Eh bien, voilà, à peu près 2000 pistoles. Voilà ce que tu vas dépenser dans cette satanée pipe. Tu aurais de quoi t'acheter un château. » Alors, l'ivrogne tire une bouffée de fumée. « Tu fumes, toi ? Oh, certainement pas. » Et il est où ton château alors ?
Well, I ain't got no choice, ain't got no choice, ain't got no choice but ban you. In the Bible it was written that bread and wine good Today I need the people, we're addicted to bad food. When you're walking down the street, they show you how to leave. They told us where to go, they told us where to sleep. But I ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice but buying you. They told to bring snakes out of home, but they told me to buy more. Even when I'm starving alone, they told me to buy more. They tried to left me for dead, but they told me to buy again. They stabbed me right in head and supply me to buy again. Everybody know that young people is crying every morning because they gotta go to school, because they got no future. My mom is from a generation where comfort is king for sure, and man has found a solution, the less is more. Well, I ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice but buying you. Well, I ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice but buying you. Well, I ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice but buying you. Well, I ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice, ain't got, ain't got no choice but buying you.
Comme accablé sur le canapé, empli d'idées prémâchées, mon âme se noie dans le flot d'infos édictées par ma télé. Au cœur d'un monde d'images, pourquoi je me sens tant esselé? Pour surler, contenus ne sont que tant de cerveaux embrumés. Notre seul choix, la façon dont on peut consommer, se consumer à petit feu et voir son monde s'étriquer. Se sentir seul but d'un système sans avenir qui crée le besoin et qui n'a jamais eu de fiable vision du devenir. Certains tentent un autre chemin, ceux-ci sont des bons à rien. Dans l'œil de la masse, travail, famille est seul et unique refrain. Sous prétexte de progrès, les mentalités régressent, les cerveaux saturent, l'info se noie dans une bouillie. On travaille donc on ne pense pas, tendu sera à la fin de mois. La pub matraque l'encéphale forçant le découvert de surcroît. Pour se faire plaisir avec le dernier produit que tout s'arrache, qui donnera un éphémère sentiment de classe. Les annonceurs vendent du rêve, dans la souffrance offrent une trêve. Gavent les pipettes de la place cour mondiale jusqu'à la gerbe. T'en persuadé d'être meilleur, on épie son voisin. Certains d'être premiers, d'être lumière sur tout chemin. Dès l'enfance tous formatés par des idées, une culture. Une propagande bien rodée qui depuis bien longtemps perdure. On dira que je suis enragé, on dira que je suis une ordure. Je te dirai qu'on a tous le choix de lutter contre nos tortures, bien loin de tout extrémisme fondé sur l'ethnocentrisme. J'ai mal au quotidien de voir les médias visés de fausses cibles, vaincus par l'audimat et non par la réalité. Le fait divers fait voile à l'information digne d'intérêt. Pour mieux sauver notre mental, l'église est le centre commercial. Malgré nous, on est tous convertis à cette vision vénale. Au fond d'un rayon, ma compulsion s'est réveillée. Je n'ai pas d'autre choix que de t'acheter.
Dans la ville, tout le monde connaît Abou Kassem. C'est un vieux radin qui n'a jamais dépensé une pièce quand ça n'était pas absolument nécessaire. Et la légende raconte, et je pense la légende vraie, qu'il n'a pas changé de chaussures depuis qu'il a eu la taille de pied qu'on lui connaît. Quand il était petit même, il achetait des chaussures beaucoup trop grandes. Puis son pied grandissait, elles étaient à la bonne taille un an ou deux, puis il portait les mêmes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient trop petites pendant 3 ou 4 ans, puis enfin se rachetait une paire beaucoup trop grande, puis son pied grandissait, etc., etc. Mais les babouches qu'il porte aujourd'hui, enfin, qu'il portait, étaient immondes, des espèces de vieux lambeaux de cuir puants, et il ne voulait surtout pas mettre un sou pour s'en racheter des neufs. « Je n'en ai pas besoin », dit-il. Ce vieux Abou Kassem aux babouches puantes, avec son sens de l'avarice, était un expert en affaires. Et un jour, après avoir conclu un superbe marché pour des flacons d'eau de rose, il décide, une fois n'est pas coutume, de se rendre au bain pour fêter ça. Il se déshabille dans les vestiaires, enlève ses babouches, et va se plonger dans l'eau bouillante, dans l'eau relaxante aux senteurs parfumées. Quand il sort du bain, il remet ses vêtements et, au moment de retrouver ses vieilles chaussures puantes, il n'aperçoit à la place de celles-ci que de magnifiques babouches neuves. « Eh bien, pensa-t-il, probablement un de mes admirateurs qui envie mon sens du sou et qui est jaloux de mon sens des affaires. Eh bien, que cet admirateur soit respecté, j'accepte son cadeau et je prends ses babouches. » Il enfile les babouches neuves et sort du bain. Sauf que ces babouches n'étaient bien évidemment pas un cadeau d'un admirateur, mais les babouches du juge, qui était venu lui aussi prendre un bain. Et quand le juge se lève, il ne trouve plus ses babouches à la place où il les avait laissées. Ne reste plus dans la salle que de vieux lambeaux de cuir puant. « Abou Kassem, pensa-t-il. Il se rendit directement chez lui et lui infligea une amende exemplaire pour avoir osé voler les babouches d'un juge. Abou Kassem, ivre de rage d'avoir perdu un sou, attrapa ces babouches puantes que le juge lui avait ramenées et les jeta dans le fleuve. Ces babouches terminèrent leur course sur un pêcheur. Le pêcheur, énervé, reprit les babouches et les relança à travers la fenêtre jusque dans la maison d'Abou Kassem. Abou Kassem, lui, était en train de trier tous les petits flacons d'eau de rose qu'il avait réussi à avoir à un prix exceptionnel. Et les babouches, depuis le pêcheur, arrivèrent directement sur les délicats flacons de cristal d'eau de rose. Le fracas était épouvantable, l'odeur pestilentielle. Et Abou Kassem venait de perdre des centaines de pièces. Dans une colère noire, il se rendit dans son jardin pour enterrer ses babouches qui ne lui causaient décidément que du malheur. Mais son voisin avait vu Abou Kassem qui enterrait quelque chose. Que pouvait-il enterrer ? Probablement un trésor, mais il sait bien, ce vieux radin, que tous les trésors, tous les fruits de la terre appartiennent au sultan. Il se rendit donc auprès du sultan pour dire qu'Abou Kassem enterrait un trésor. « Un trésor ?» dit le sultan. « Faites-le amener ici. » Et les gardes amenèrent Abou Kassem jusqu'au sultan qui lui infligea une amende exemplaire pour voler le bien du sultan, pour voler les fruits de la terre. Abou Kassem avait beau essayer de s'expliquer qu'il enterrait des babouches, cette histoire ne tenait évidemment pas debout et l'amende lui fut infligée. Abou Kassem, les poches de plus en plus légères, repartait avec ses babouches en main, la lèvre tressaillante de rage. Il décida pour s'en débarrasser de jeter les babouches dans un étang. Mais les babouches coulèrent au fond de l'étang et bouchèrent les tuyaux qui approvisionnaient la ville en eau. Quand les agents d'entretien récupérèrent les babouches, ils reconnurent bien évidemment les sales débris de cuir puant d'Abou Kassem et une nouvelle amende lui fut infligée. Il jeta ses sandales par la fenêtre et ses babouches atterrirent sur une femme enceinte qui, du fait du choc, perdit son enfant et fit une fausse couche. D'amende en amende, de malheur en malheur et de malchance en malchance, on finit par porter Abou Kassem devant le tribunal. Il dut vendre sa maison, vendre tous ses biens et être dépossédé de toutes ses pièces d'or pour pouvoir payer toutes les amendes qu'il devait. Mais au tribunal, sans un sou, il se mit à rire. « Mes babouches, dit-il, je vous les donne. » Il n'a plus rien. Il est libre. Il n'a plus rien à redouter maintenant. « Merci, infâme godasse, dit-il. » Puis ses lèvres qui étaient restées crispées pendant toutes ces années esquissèrent l'ombre d'un sourire. Puis il s'en alla, pieds nus, sous le soleil brûlant. Et c'est avec ces histoires que nous clôturons la série d'émissions « Les bons contes font les bons amis ». Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle histoire. Vous pouvez retrouver toutes les références des contes et musiques passées dans l'émission sur la page des contes d'Albatros, sur le site internet de Radio Campus Rennes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, au revoir et à bientôt.